C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités. Nous sommes le 16 avril et on s'intéresse aujourd'hui au journalisme de science. D'où vient-il? À quoi sert-il et quelle est sa fonction aujourd'hui? On se demandera aussi quelles sont les spécificités et les enjeux de ce métier et sa place, aussi bien dans la communauté scientifique que dans le journalisme. Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré avec Simon, Carole Châtelain et Agnès Vernet, respectivement présidente et vice-présidente de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Mais juste avant, c'est l'heure des infosciences de la semaine. On sait désormais comment l'ovule se referme pour n'accepter qu'un spermatozoïde. Lors de la fécondation, un seul des plusieurs millions de spermatozoïdes peut fusionner l'ovule, ça c'est bien connu. Mais la question de la composition de la surface de l'ovule a été remise en question avec cette nouvelle étude publiée dans la revue Cell. Auparavant, l'hypothèse la plus probable qui expliquait le blocage de la plupart des spermatozoïdes, c'était celle d'un clivage, en gros d'une rupture de la protéine à la surface de l'ovule. Finalement, ces récentes découvertes ont montré que la surface de l'ovule se rigidifiait, une modification irréversible qui entraîne un blocage des spermatozoïdes et qui pourrait bien expliquer certains cas d'infertilité, se liés au renfermement trop rapide d'un ovule. Une autre découverte ce midi dans l'actu, des chercheurs français ont décelé l'une des molécules, à l'origine de l'asthme et qui pourrait bien changer la donne pour les malades. Alors pour rappel, l'asthme ça consiste en l'obstruction des voies respiratoires, des bronches, et qui se manifeste par une gêne et une sensation de suffocation, une maladie chronique dont souffrent en France 4 millions de personnes, et ce sont donc 14 chercheurs du CNRS de Toulouse, de l'INSERM et de l'université Paul Sabatier qui ont identifié cette fameuse molécule responsable de la maladie et qui apparaît quelques minutes après l'exposition de l'allergène à l'allergène. Son nom, c'est TL1A. En réagissant aux champignons à l'origine de l'asthme, elle envoie des signaux qui entraînent une multitude de réactions en chaîne dans le corps, d'où cette inflammation. Une découverte prometteuse pour les scientifiques, des essais cliniques vont débuter incessamment sous peu et un traitement pourrait voir le jour d'ici 5 ans. Pourquoi certains d'entre nous sont gauchers et d'autres droitiers? On s'est tous déjà posé la question. Ça tombe bien, la communauté scientifique aussi, et en particulier une équipe de l'Institut Max Planck aux Pays-Bas. C'est un fait, la population est constituée de 90% de droitiers et de 10% de gauchers, une répartition qui pourrait bien provenir de variants génétiques, 2,7 fois plus présents chez les gauchers, des variants qui jouent un grand rôle dans la production d'une famille de protéines, les tubulines, et ce sont ces protéines qui influencent le développement du cerveau, en particulier la prédominance pour l'un ou l'autre des deux hémisphères, une préférence qui permet aux gauchers de développer des aptitudes particulières. Ils sont plus précis et plus adroits dans l'accomplissement de certains gestes et semblent avoir une meilleure visualisation dans l'espace. Des chimpanzés belliqueux et des bonobos pacifistes, des clichés qui ont la vie dure et qui collent à la peau de ces singes, puisqu'une nouvelle étude révèle que ces bonobos sont plus bagarreurs, avec jusqu'à 3 fois plus d'altercations physiques, un trait de caractère qui leur permet aussi d'avoir davantage de succès auprès des femelles, des comportements agressifs qui se font surtout entre eux. Les mâles bonobos sont presque exclusivement agressifs envers d'autres mâles, tandis que les chimpanzés ont plus tendance à agresser des femelles.
Vous écoutez, c'est pas faux sur Radio Phoenix.
Nous sommes actuellement aux Assises du journalisme de Tours, l'occasion pour nous de nous pencher sur la question du journalisme de science.
Qui est-il? À quoi sert-il? Qu'a-t-il de particulier? On en parle aujourd'hui avec Carole Châtelain et Agnès Vernet. Bonjour.
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 Alors vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Alors avant de nous parler en détail du journalisme de science, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'AJSPI?
L'AJSPI, c'est une association qui signifie donc l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Donc le mot dit bien ce qu'il veut dire, la presse d'information. Donc nous ne sommes pas des journalistes, enfin nous ne sommes pas en communication, hein, donc il y a bien une différence. Nous sommes environ 300, une représentation nationale, donc une grosse association, la plus grosse association de journalistes scientifiques. Et nous représentons tous les métiers de la presse concernée, à savoir les journalistes écrivants, les photographes reporters, quel que soit le statut de ces personnes, c'est-à-dire qu'elles soient postées en rédaction ou qu'elles ne le soient pas. Et ça, c'est très important.
Et pourquoi c'était une nécessité de former ce collectif ? Est-ce qu'il y avait une nécessité de base ?
Alors, ce collectif est né en 1955. Hein, donc, on n'est pas du tout dans une question d'actualité urgente. Et je crois qu'historiquement, les journalistes se sont réunis dans une association parce qu'ils étaient isolés, les gens traitant de science, chacun dans une rédaction isolée et avaient besoin d'espace pour partager leurs pratiques et leurs questions relatives au métier.
Et quand on parle du métier, justement, qu'est-ce qui fait un bon journaliste de science ? Est-ce qu'il y a des connaissances et des qualités qu'on lui demande en particulier ?
Oui, tout à fait. On n'est pas journaliste de science par hasard. On ne s'improvise pas journaliste de science. Alors, quand on dit journaliste de science, soit on a une formation scientifique, soit on s'occupe de sujets scientifiques. Mais quoi qu'il arrive, il y a une méthode scientifique à connaître. Il y a vraiment des outils à connaître et à pratiquer, que ce soit des bases de données de science, que ce soit la technique scientifique, que ce soit la méthode scientifique qu'il faut maîtriser. Il faut bien évidemment savoir lire, par exemple, une étude scientifique. C'est quelque chose qui s'apprend, ça ne s'improvise pas. Donc effectivement, les journalistes scientifiques sont vraiment des journalistes spécialisés.
Et qu'est-ce qui va différencier un journaliste de science d'un journaliste généraliste ?
Alors je pense que la science, c'est un domaine de spécialité comme n'importe quel autre domaine de spécialité, de l'actualité. On est journaliste de science comme on peut être journaliste d'économie ou journaliste de sport. L'important, c'est de rentrer dans un sujet, d'en comprendre les arcanes, les acteurs, les politiques, les idéologies sous-jacentes pour permettre de traiter ces sujets et d'éclairer les lecteurs sur ces sujets.
Et comment est-ce qu'on va former un bon ou une bonne journaliste scientifique ? Est-ce que c'est des gens qui, de base, vont être journalistes généralistes et vont se spécialiser ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va plutôt avoir des profils de personnes plus scientifiques qui vont devenir journalistes ?
Les deux, mon général. Il y a des journalistes généralistes qui deviennent journalistes scientifiques parce qu'au cours de leur carrière, ils ont eu à s'intéresser à des sujets qui sont du ressort de la science, le climat par exemple, l'environnement. Ce sont généralement c'est les deux disciplines dans lesquelles il y a le plus de journalistes.
Oui, quand on parle de science, on englobe aussi l'environnement.
Tout à fait, oui, tout à fait, évidemment, avec l'enjeu du changement climatique aujourd'hui qui est vraiment un enjeu scientifique majeur. Donc il y a les deux façons de devenir journaliste scientifique. Soit on a une formation et on se spécialise et on propose des sujets dans son domaine. Donc on peut devenir spécialiste de physique quantique, par exemple. Et il y a certaines disciplines qui sont assez recherchées dans la presse aujourd'hui parce qu'elles sont plutôt rares. Par exemple, les journalistes environnement sont relativement nombreux, tandis que des journalistes de sciences dures, comme les mathématiques ou l'astronomie ou la chimie, sont plus rares, donc il y a vraiment toutes les disciplines qui sont représentées. Et on se forme, comme je le disais tout à l'heure, on se forme à des méthodes scientifiques. Donc effectivement, il faut assurer sa formation. On ne s'improvise pas journaliste scientifique comme on ne s'improvise pas journaliste sportif si on ne connaît pas évidemment les tournois ou les enjeux du sport. C'est la même chose.
Est-ce qu'on va avoir aussi une vraie différence entre un journaliste de science qui travaille dans un média spécialisé sur les sciences et un journaliste de science qui va travailler dans un média généraliste ?
Alors moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une différence particulière, si ce n'est celle qu'on n'a pas tout à fait la même audience. Et je pense que de la même manière que des gens qui vont travailler pour des médias à destination d'un jeune public ou des gens qui vont travailler pour des médias avec un public très ciblé, il y a des différences, mais est-ce que le journaliste en lui-même est différent parce qu'il travaille dans un magazine spécialisé ou pour un quotidien national ? Non, je pense pas.
C'est peut-être plus la façon de travailler ou la façon de parler qui va un petit peu changer, mais globalement, ça reste...
Ben, le métier est le même. En fait, la science reste une matière à éclairer. C'est pas... Y a des débats, on l'a vu pendant le Covid, mais y a des débats scientifiques sur tout un sujet et le journaliste est là pour non pas raconter la science mais bien éclairer le lecteur sur ce qui se passe dans le milieu scientifique.
Et aujourd'hui, quelle est sa place au journalisme de science dans la presse généraliste ? Est-ce qu'elle est suffisante à votre avis ?
Non. C'est tout le problème, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on constate actuellement un intérêt du grand public pour la science. C'est-à-dire que les questions, les enjeux scientifiques, on les connaît, ils sont majeurs. On a vu le Covid, on a évidemment le réchauffement climatique. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui arrivent sur le devant de la scène. Et on se rend compte qu'en fait, les journalistes de science ne sont pas suffisamment nombreux en rédaction pour assurer une information de grande qualité. Et nous, à la JSPI, c'est l'un de nos combats, c'est-à-dire de faire comprendre aux rédactions qu'ils ont la nécessité d'avoir des journalistes qui connaissent vraiment la science. Et nous sommes d'ailleurs en partenariat avec Radio France, par exemple, où nous donnons des formations, nous assurons des formations pour apprendre aux journalistes généralistes ce que c'est que la science. Je disais tout à l'heure comment est-ce qu'on lit une étude scientifique, c'est-à-dire comment on fait la différence entre le premier auteur et le dernier auteur, qu'est-ce que ça veut dire. Les termes, évidemment, les termes scientifiques, les publications, est-ce qu'elles sont valables, est-ce qu'elles ne le sont pas. Enfin, tout ça, évidemment, il faut l'apprendre. Et donc, nous militons pour qu'il y ait au minimum au sein des rédactions un référent scientifique. C'est l'un des combats de la JSPI.
Et sur la presse scientifique, quelle est sa place aujourd'hui dans le paysage médiatique, que ce soit au niveau du lectorat, est-ce que ça attire beaucoup, et au niveau de sa mise en valeur?
Oui. Je pense qu'il y a un vrai lectorat pour la presse scientifique, mais la presse scientifique est souvent une presse magazine, et donc elle traverse la même crise que le reste de la presse magazine. C'est un moment difficile.
On a vu avec la création d'Epsilon, qui est ce jeune journal qui a été créé il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas, par une partie de la rédaction de Science et Vie, qu'il y avait de la place pour un magazine de science, hein, que les gens étaient demandeurs, parce que ce magazine a trouvé son public, même si c'est difficile. Mais comme le dit Agnès, actuellement, la presse scientifique spécialisée, entre guillemets, que ce soit sur CELI, que ce soit Science et Avenir, que ce soit La Recherche ou Epsilon, connaissent exactement les mêmes problèmes que le reste de la presse magazine, c'est-à-dire une sorte de déshérence de ses lecteurs qui, globalement, quitte la presse écrite pour d'autres moyens d'information.
Acheter des magazines.
Et comment est-ce que la science s'invite dans l'actualité? Quelle est sa place? Est-ce que ça va aussi permettre de susciter davantage d'intérêt pour ces sujets-là?
Alors moi, je pense que toute l'actualité peut être traitée du côté de la science, hein, que c'est une manière de regarder le monde, que c'est une manière de... On peut éclairer l'actualité politique avec un point de vue scientifique. Il y a des tas d'études en sociologie qui vont nous aider à porter ce genre d'angle. On peut éclairer l'actualité technique avec des points de vue scientifiques. On peut s'interroger quand on regarde le milieu de l'industrie automobile sur le futur des prochains moteurs, hein. C'est vraiment des sujets scientifiques, et on peut éclairer l'actualité sportive avec des angles scientifiques. Il y a énormément d'angles sur le dopage, la sociologie du sport, la recherche de la performance, qui sont essentiellement des angles scientifiques.
Et vous parliez tout à l'heure du manque de place qu'on donnait aux journalistes scientifiques. Est-ce qu'on sous-estime aussi la place de la science dans le traitement de l'actualité, même si, comme vous venez de le dire, elle est omniprésente?
Alors, moi, je pense qu'elle pourrait être omniprésente. Est-ce que cette place lui est donnée dans tous les quotidiens? On remarque que certaines chefferies sont un peu plus réticentes à laisser de la place aux angles scientifiques dans leurs colonnes. On peut le remarquer, oui.
On est aussi assez inquiet, et nous venons de faire une lettre ouverte à France Télévisions sur la disparition des cases sciences. Alors qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie nécessité, à l'ère des fake news, à l'ère où toutes les études prouvent qu'il faut vraiment savoir décrypter l'information et faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, France Télévisions a choisi de supprimer des émissions scientifiques comme le Journal de la Santé qui va disparaître. Donc on alerte France Télévisions sur ce fait et sur les enjeux démocratiques aussi qui vont avec, et parce qu'il faut absolument un décryptage de science. Et il est vraiment regrettable que le service public n'assure pas cette mission.
Et vous avez une idée de ce pourquoi, justement, on a tendance à dégrader un peu comme ça l'actualité scientifique, à la mettre un peu en retrait?
Alors moi, j'ai un sentiment personnel, hein, mais je ne suis pas dans l'intimité des gens qui prennent ce genre de décision. Mais je me demande parfois si La culture des dirigeants des médias, comme la culture de nos dirigeants politiques, manque un peu de science, et donc ils ne voient pas exactement l'intérêt de ces sujets, alors que leur audience, le public en général, je pense que les Français ont une vraie appétence pour ces traitements de l'actualité.
Est-ce que vous pensez que l'émergence de sujets environnementaux et sa plus grande diffusion aujourd'hui va permettre justement de sauver, entre guillemets, l'absence de plus en plus marquée de sujets scientifiques, ou au contraire, ça va étouffer les sujets non environnementaux dont on traitait avant ?
Il y a actuellement une omniprésence des sujets environnementaux, enfin une omniprésence, tant mieux, parce que vu les enjeux concernés, mais effectivement, on a tendance à traiter beaucoup de sujets environnement, mais il n'y a pas que ça, il faudrait traiter d'autres sujets scientifiques tout aussi cruciaux. On parle d'intelligence artificielle, on parle de chimie, on parle de substances toxiques, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de tout ça. Et c'est les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui est un sujet vraiment très important, peut-être n'ont pas la place qu'ils méritent, que ce soit sur les radios ou que ce soit sur les chaînes de télé ou la presse écrite. Peut-être qu'effectivement, l'environnement occupe un espace important au détriment peut-être d'autres enjeux.
On continue de parler journalisme de science juste après Mirror de The Last Dinner Party. A tout de suite sur Radio Phoenix.
My lips turn blue.
C'était Mirror de The Last Dinner Party. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux sur Radio Phoenix. On continue de parler de journalisme scientifique ou journalisme de science avec Carole Châtelain et Agnès Vernet, présidente et vice-présidente de l'AJSPI, l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Alors aujourd'hui, quels sont les enjeux de société auxquels les journalistes de science doivent répondre globalement ?
Les enjeux de l'actualité qui ont des fortes connotations scientifiques sont partout. On a parlé d'environnement, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité. Il y a énormément de questions sur l'effet de substances liées à l'industrie sur la santé, sur le long terme. On peut également parler de questions plus sociologiques. On a parfois entendu certaines personnes s'inquiéter de transformations radicales de la société qui mettraient en péril je ne sais pas qui, l'éducation des enfants ou je ne sais pas quoi. Le débat, je pense que la science a des éclairages à apporter pour traiter de ces questions-là. L'énergie est un sujet vraiment aussi important. J'en oublie, en fait, on est dans une société de plus en plus technique hein, et où les sujets scientifiques et techniques vont devenir de plus en plus importants.
Et est-ce qu'aujourd'hui, être journaliste de science, c'est aussi faire face à une méfiance, une défiance grandissante envers les sciences ?
Envers les sciences, pas particulièrement, mais nous sommes des journalistes, donc nous sommes comme nos confrères et consoeurs, c'est-à-dire que nous sommes victimes effectivement de cette méfiance qui grandit dans la population. Les baromètres le montrent, c'est notamment dû aux fake news, et c'est dû surtout à une sorte de nivellement de l'information, c'est-à-dire que le grand public ne fait plus peut-être la différence aujourd'hui entre une information venue de nulle part, si je puis dire, et puis une information qui a été checkée et qui a été enquêtée par un journaliste. Donc ça aussi, c'est notre combat, c'est-à-dire que nous, en tant que journalistes scientifiques, mais en tant que journalistes d'abord, nous militons pour que notre métier soit reconnu par les rédactions et puis surtout qu'on ait toujours les moyens de pratiquer nos métiers qui demandent quand même du temps et qui demandent des moyens financiers.
Avec juste un bémol, je tiens à signaler que la Fondation Descartes a sorti il y a 2 ans un rapport sur la défiance des Français par rapport au changement climatique. Et un des items montrait que les journalistes n'étaient pas très bien notés, mais que les journalistes de science étaient bien mieux notés.
Donc il y a quand même un certain gage de crédibilité.
Est-ce que vous pensez que les progrès techniques et scientifiques croissants vont vous amener à avoir de plus en plus d'importance au sein des rédactions ou pas forcément ?
Difficile de vous répondre. Nous sommes plutôt actuellement dans l'expectative, nous sommes dans l'interrogation. Nos métiers changent, c'est une évidence. Nous avons animé un atelier, enfin nous avons participé à un atelier aux assises sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tout ça va donner ? Est-ce que nous ne sommes pas face à un énorme changement dans la pratique de nos métiers ? Nous sommes très vigilants. Nous avons créé au sein de la JSPI un comité de réflexion autour notamment de l'IA. Je ne peux pas vous dire de quoi demain sera fait. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'Agnès en a une.
Non, pas de boule de cristal non plus.
Oui, vous le disiez, il y avait un atelier ce matin sur la question de l'intelligence artificielle. Donc vous venez un peu de commencer à répondre à la question que j'allais vous poser. Mais ouais, en quoi est-ce que c'est vraiment un enjeu important dans le traitement du journalisme de science de demain, de cette question de l'IA, que ce soit à la fois pour ceux qui perçoivent l'information et pour aussi les journalistes de la manière dont ils travaillent ?
Ça n'est pas que pour les journalistes de science que c'est un enjeu important. C'est pour le journalisme en général et c'est pour la société et la civilisation dans sa globalité même que l'intelligence artificielle va jouer un rôle majeur. Donc nous sommes interrogatifs sur la façon dont l'intelligence artificielle s'implante actuellement dans notre environnement médiatique. Nous sommes dubitatif sur le contrat que vient par exemple de signer Le Monde avec OpenAI, parce que tout ça est assez...
Qui est le créateur de ChatGPT.
Qui est le créateur donc de ChatGPT, qui a permis de rendre l'intelligence artificielle beaucoup plus populaire, entre guillemets, au sein du grand public. Nous sommes dubitatifs parce que nous ne connaissons pas les termes du contrat. Nous sommes étonnés que le monde ne se soit pas allié et n'ait pas fait le choix d'une alliance avec d'autres éditeurs pour aller négocier et choisi de partir seul au combat, alors que le New York Times, par exemple, est en procès avec OpenAI, après avoir tenté des négociations avec eux. Il ne faut pas oublier que ce sont des acteurs américains, qu'il existe des enjeux de souveraineté. Il existe des enjeux de droits d'auteur, il existe des enjeux de toutes sortes, des enjeux éthiques, et qui vont tous nous concerner. Et nous, en tant que journalistes, nous ne pouvons qu'être vigilants. Alors je ne condamne pas, et nous ne condamnons pas l'intelligence artificielle en tant que telle. Nous essayons de comprendre quels vont en être les usages et qu'il faudrait très certainement et évidemment les encadrer.
Et justement, quelles sont les différentes menaces que peuvent faire peser les intelligences artificielles à la fois sur le journalisme et sur la qualité de l'information ?
Alors déjà, on peut remarquer que certaines initiatives qui veulent tester l'intelligence artificielle dans le milieu de l'information concernent directement les champs du journalisme scientifique. Ce sont des idées pour améliorer la recherche de documents ou la recherche d'informations liées au climat ou au changement climatique. Ce sont des champs que le journaliste scientifique connaît bien. Et il y a peut-être aussi, sous couvert de développer des outils intéressants pour tout un chacun, le manque de diffusion de compétences des journalistes scientifiques dans les rédactions.
Alors cette année, la thématique des assises, elle tourne aussi beaucoup autour du sport. Et il y avait une conférence ce matin, enfin au matin où on enregistre cette émission, sur un sujet intitulé « Le journalisme de sport, un journalisme de science qui s'ignore ». Pourquoi cette question qui a titré la conférence, pourquoi est-ce qu'on vient à se demander si le journalisme de sport est un journalisme de science ?
Alors je pense que on peut faire des rapprochements entre ces deux spécialités de journalisme auxquelles on ne pense pas. Parce que les journalistes de sport ont très envie de comprendre la mécanique de la performance, hein, évidemment, c'est au cœur de leurs questions. Et pour rentrer dans ces détails-là, il va falloir faire appel à des scientifiques et donc aussi faire appel à l'expertise des journalistes de science. Et il y a là, finalement, une forme de cohérence, de partage de bonnes pratiques et d'intérêts. Et donc c'est un espace où on se retrouve et où on peut discuter de nos sujets.
Et quels sont les différents ponts qui existent entre le journalisme de science et le journalisme de sport ? Comment est-ce que l'un sert l'autre ?
Alors, il y a énormément de sujets dans le sport qui concernent tout le monde. Alors, évidemment, le dopage est un sujet qui concerne à la fois les scientifiques et les sportifs, et donc les journalistes de science et les journalistes de sport. La question de la haute performance, de l'amélioration des performances concerne à la fois les journalistes de science et les journalistes de sport. Quand il y a un fait de jeu un peu étonnant, une balle qui a une trajectoire inattendue, la science peut apporter un éclairage. Le journaliste de sport va peut-être comme ça aller chercher un collègue capable de parler avec un physicien pour éclairer cette trajectoire de balle. Des questions sociétales aussi sont importantes et permettent de faire appel à un éclairage scientifique. On pense à l'essor du sport au féminin qui pose de nouvelles questions. Enfin, il y a énormément de sujets dans le sport qui méritent un éclairage scientifique, selon moi.
Pardon. Est-ce que aujourd'hui la place des sciences dans le traitement de l'information sportive, il reste quand même encore beaucoup en retrait ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie encore aussi de mettre en avant ?
Alors moi je pense qu'en effet on peut mettre de la science partout et on peut se dire que certains titres spécialisés dans le sport ne font pas assez de place à la science dans leur colonne. Mais on est sûrement peut-être une vision un peu pessimiste et il y a peut-être des gens qui proposent de plus en plus de sujets de science dans des titres spécialisés et ça vient, je pense qu'on peut y croire.
Je rajoute qu'on ne se cache pas non plus derrière notre petit doigt et que sur certains sujets, les journalistes sportifs n'osent pas trop s'aventurer sur le terrain de la science. Agnès parlait tout à l'heure du dopage. Il va de soi que certains titres, ce sont des sujets pour lesquels ils ne vont pas beaucoup investir parce que le sport reste un sport spectacle et effectivement faire des enquêtes sur le dopage, ça peut tuer la poule aux œufs d'or.
Et est-ce que tous les sports se valent dans les ponts qui existent entre journalisme sportif et scientifique ? Est-ce qu'on peut parler de science dans tous les sports de manière égale ?
Alors on peut parler de sport, on peut parler de science dans tous les sports. Tous les sports ont des sujets scientifiques et intrinsèques. Certains sports ont développé une culture scientifique un peu plus forte que les autres. Et notamment la voile est connue pour abriter un très grand nombre d'ingénieurs. Alors c'est intrinsèque à la mécanique du sport, mais y a aussi une forme de culture. Le rugby aussi comporte de très nombreux licenciés scientifiques, hein, et donc ça rejaillit sur la culture du sport en général, et donc il y a pas mal de scientifiques de haut niveau qui pratiquent le rugby et vont s'intéresser donc au rugby aussi d'un point de vue scientifique.
Beaucoup de chercheurs s'intéressent aussi aux performances, hein. Il y a des partenariats entre des équipes, les équipes de France et l'INSEP notamment, et les chercheurs de l'INSEP, l'équipe de canoë par exemple travaille beaucoup avec des physiciens pour améliorer la glisse. Donc les sportifs ont bien compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer des études scientifiques. Mais là, le bon côté de la pièce.
Et même dans la façon de montrer le sport, c'est souvent frappant, notamment quand on regarde des matchs de foot, il y a une utilisation grandissante de tout ce qui va être data et statistiques. Ça aussi, c'est des données qui peuvent faire en sorte que la science va être encore plus mise en avant dans les années à venir dans le sport.
Alors je pense que le chiffre ne fait pas la science, la manière dont on va utiliser ce chiffre...
Mais au moins qu'on puisse comprendre...
Oui, mais il faut aussi faire l'effort d'expliquer au lecteur d'où vient ce chiffre, comment il a été produit, comment on peut l'interroger. C'est là où on va amener une dimension scientifique. Et parfois, on va voir en effet un traitement du sport plein de chiffres, mais sans aucune mise en contexte. Et peut-être que cette marche-là... va être intéressante à l'avenir pour éclairer davantage le lecteur.
Ouais. Parce que ça manque pour l'instant encore.
Parfois, moi j'ai vu des trucs où je trouvais que c'était un peu brutal. Hein.
Ouais. Et on va revenir pour finir sur le titre de cette conférence. Pourquoi est-ce que dans le titre donc on parle de journalisme de science qui s'ignore ? En quoi est-ce qu'il s'ignore, pardon ?
Non, parce que c'est mon titre, je me permets de le défendre. C'est le journaliste de sport qui ignore qu'il est un journaliste de science. Hein. Et c'est juste une petite plaisanterie sur la manière dont ces deux archétypes du journaliste ne se parleraient pas, ne se reconnaîtraient pas. Et en réalité, non, tout le monde partage la même pratique du journalisme.
Vous vouliez peut-être rebondir ?
Non, simplement, effectivement, ça nous semblait très intéressant d'organiser cet atelier parce que, vraiment, le journalisme sportif, c'est peut-être celui qui a le plus de rapport avec la science. Si vous prenez un journaliste d'économie, la science et la science telle que on la conçoit est peut-être un peu plus éloignée. Mais en sport, tout est science. Et on peut vraiment tout prendre, que ce soit le golf, que ce soit le rugby. On peut parler de technique et de matériel, mais on peut aussi parler de commotion cérébrale, que ce soit la santé, que ce soit les matériels utilisés. La science est partout. Et je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire entre nos deux spécialités.
Merci beaucoup Carole Châtelain et Agnès Vernet d'être passées à notre micro depuis les Assises du journalisme de Tours. On rappelle que vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de presse d'information. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Encore merci à Carole Châtelain et à Agnès Vernet d'avoir été à notre micro. C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence cet agenda avec le Dôme qui vous propose demain après-midi un atelier de sensibilisation à la pollution des eaux. Vous pourrez donc aller à la rencontre de cette pollution en prélevant et analysant les déchets qui se trouvent sur les berges de l'Orne. À la pêche au plastique, c'est demain de 14h à 16h au Dôme. Une autre session de cet atelier aura lieu en juillet. Pour plus d'informations et vous inscrire, rendez-vous sur le site ledôme.info. Et puis comme chaque semaine, votre recommandation documentaire, on parlait de méfiance à l'égard des journalistes scientifiques. Cette méfiance est parfois bienvenue, surtout quand il s'agit de pseudo-science. C'est la question que pose France 5 dans un documentaire sur la naturopathie. Zoom cette semaine sur cette discipline de plus en plus en vogue, mais qui n'est ni encadrée ni réglementée et qui laisse donc la porte ouverte à de nombreuses dérives. En quête de santé, peut-on faire confiance à la naturopathie ? C'est un documentaire éclairant et tout en nuances. Et c'est ce soir à 21h05 sur France 5. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.